Alors, bonjour tout le monde.
Bonjour.
On n'est pas nombreux, on n'est pas donc très formel. Oui. Alors, je vais essayer de vous donner une idée de ce que c'est que la Text Encoding Initiative, la TEI, ou le TEI, ou je ne sais quoi. Je me présente moi-même, je suis anciennement de l'université d'Oxford. J'étais responsable de centre informatique là-bas, mais j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de ce qu'on appelle de nos jours humanité numérique, digital humanities et tout ça. Je ne suis pas convaincu que ça existe comme discipline vraiment, mais ça c'est un autre discours. Ça sera pour une autre fois donc. Je bosse assez longtemps en France, et notamment avec le TGE Adonis quand ça existait, et j'espère continuer de travailler toujours avec Humanum. Mais tout ça, c'est pas tellement intéressant, puisque après avoir pris ma retraite de l'université d'Oxford, je suis dans la merveilleuse position. Non, ça se dit pas en France. Pardon. Je suis tellement heureux que je peux faire ce qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse le plus actuellement, c'est le Text Encoding Initiative. Donc, c'est pour ça, je suis très content de vous présenter cela. Alors, quand elle m'avait invité, notre collègue m'avait dit que, selon elle, il n'y a pas tellement de projets dans le domaine asiatique qui se servent de la théorie. Alors, j'étais un peu surpris d'écouter ça. Alors, j'ai pensé à ajouter ce petit diapo pour commencer mon discours. Ça, c'est une photo que j'avais prise quand j'étais hébergé au Dharma Drum Mountain. Selon Wikipédia, ça se traduit en français comme « montagne du tambour du Dharma ». Je ne suis pas convaincu, ça n'a pas l'air joli, mais je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, c'est un des centres mondialement reconnus pour l'étude des textes bouddhistes. Et cette monastérie, je peux dire, ils ont un très joli affiche là que vous voyez. C'est pas une affiche, en effet, ce sont des morceaux de pierre de d'ardoise. C'est de l'ardoise, je pense, ou bien c'est du marbre. Et sur chacun de ces carrés, vous avez une version du début d'un des textes très connus, le sutra dit cœur, extrait du Tripitaka. Dans ces versions différentes, dans des langues différentes. Et ce qui m'avait fait le plus grand plaisir, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que c'est en TEI. Et vraiment, c'est gravé en TEI. Malheureusement, c'est le TEI de l'ancienne version, mais quand même, c'est la TEI. Alors, je dis que la théorie, elle est partout. Pourquoi? Parce que la théorie est née dans une période très ancienne. La théorie, ça vient d'une période où il n'y avait pas de tunnel sous la Manche. C'est un monde avant Microsoft Word. C'est un monde avant la téléphone portable. Et surtout, c'est un monde avant le World Wide Web. Ce qui est un peu bizarre. Que ça continue toujours. Pourquoi? Moi, bon, il y a plusieurs réponses à cela. Je n'ai pas le temps de les présenter. Mais je vais simplement noter que pour moi, parce que moi, j'ai eu une formation littéraire. Pour moi, c'est parce que en se servant de la théorie, On ne peut pas s'en servir d'une manière bête. Ben, bien sûr, on peut. Mais pour vraiment en profiter, il faut faire des choses, il faut faire des objets, un travail intellectuel, une nécessité. Ce n'est pas une méthode qui s'applique tout bêtement, comme ça. Il faut réfléchir. Pourquoi ? Parce que, en effet, c'est une espèce de lecture. Qu'est-ce qu'on fait quand on lit un texte ? On l'encode. Ça veut dire que, selon moi, ça veut dire que l'interprétation des mots d'un texte n'est pas du tout aléatoire, il n'est pas du tout automatique non plus. Notre lecture d'un texte est guidée par des signes, par exemple des signes de ponctuation, des changements de police, la disposition spatiale, tout cela a un effet. Pour indiquer ces choses-là, les choses qui sont indiquées par la ponctuation, etc., on a besoin, dans un texte numérisé, d'autres méthodes. On ne peut pas mettre des blancs, on peut pas, parce qu'un texte numérisé n'existe pas sur un écran. Ça, ce n'est pas le texte. Ça, c'est une représentation. Je vais revenir à ce point. Alors, le balisage des textes dans leur forme numérisée, le balisage sert à exprimer les lectures qui sont préalables dans un texte. Et donc, rend possible une polyvalence des ressources textuelles. Et induit des réflexions profondes sur la matérialité des textes. Je reviens sur ce point avec un petit exemple. Mais avant ça, je précise ce que c'est que la Text Encoding Initiative. Bon, je traduis la phrase. C'est une initiative pour l'encodage textuel. D'accord. Mais en effet, on se sert de TEI dans trois sens différents. On peut s'en servir pour dire simplement pour définir l'ensemble de recommandations éditées, distribuées par le TEI, des recommandations pour l'encodage des ressources numériques actuellement avec XML. Vous connaissez l'XML, je n'ai pas besoin d'expliquer ça, d'accord. Mais d'un autre point de vue, on peut dire que le Text Encoding Initiative, c'est un objet social. C'est une infrastructure, quasiment, internationale, responsable de la maintenance, de l'évolution, de la distribution de ces recommandations. D'accord ? Et on peut, je dis ça en parenthèse, comme toute autre infrastructure internationale, ça doit être financé, et donc vous avez la possibilité de suggérer un abondement à la TEI de vos institutions. Et la troisième point de vue sur ce que c'est que la TEI, c'est de dire que vraiment c'est une communauté international déjà, d'utilisateurs de ces recommandations. C'est la TEI s'est longtemps inscrit dans l'optique du monde de open source. Ça veut dire que la TEI n'est pas gérée par le gouvernement, n'est pas gérée par les industries, n'est pas gérée par une université spécifique ou un labo ou personne. C'est géré par ses utilisateurs. Il y a tout un système démocratique de représenter ces utilisateurs. Ok, là j'ai expliqué un peu l'arrière-plan, mais le plus intéressant, c'est vraiment le deuxième, le premier. les recommandations qui sont faites à l'intérieur de la TEI. Et pourquoi je dis que c'est le plus intéressant parce que c'est là qu'on voit que vraiment la TEI c'est un cadre permettant une réflexion un peu approfondie sur ce que c'est qu'un texte numérisé. C'est pas un standard fixe comme les standards pour les prises, pour l'électricité, etc. C'est un standard très plastique. Alors, je reviens un peu sur le concept de l'encodage. Parce qu'il faut comprendre qu'un document numérique est beaucoup plus qu'une séquence de caractères encodés. Déjà, l'encodage des caractères vous pose des problèmes. Mais même si ces problèmes sont tous résolus, avec par exemple le système Unicode, quand même, vous aurez d'autres choses à encoder. Parce qu'un document contient beaucoup plus qu'une séquence de formes lexicales. Il possède une structure. Il possède une signification. Même pire, un document peut porter plusieurs significations, plusieurs lectures différentes sont possibles sur un seul document. Et au troisième plan, on peut enrichir la portée, le contenu d'un document par des annotations, par des explications, par des liaisons entre documents. Comme je viens de dire, l'encodage explicite ces lectures. Pourquoi en fait ce travail d'explicitation? Parce que les ordinateurs, comme vous le savez, sont très bêtes. Ils ne sauront pas traiter les textes dans la mesure de que nous souhaitons sans une explicitation de tous ces aspects que je viens de vous proposer. Alors, je prends un exemple. Ah, ça, c'est pas lisible, je suis désolé. À gauche, j'ai pris une petite photo d'un texte de l'auteur français Perec, vous le connaissez peut-être, que j'aime bien. Il dit, j'écris, j'habite ma feuille de papier, je l'investis, je le parcours, je suscite des blancs, des espaces, sauts dans le sens, discontinuité, passage, transition. Puis il y a un énorme blanc. À droite, il écrit « J'écris dans la marge ». Puis, il recommence « Je vais à la ligne ». Je renvoie à une note en bas de page. Il y a un renvoi. Et en bas, il y a en effet une note qui dit « J'aime beaucoup les renvois en bas de page, même si je n'ai rien de particulier à y préciser ». C'est pour ça que j'adore Perec. Et puis, après le renvoi en bas de page, il dit « Je change de feuille ». Et puis, c'est la fin de la page. Ok. Alors, on va numériser ça. Qu'est-ce qu'on numérise précisément? À droite, vous voyez, je vous présente quelque chose qui m'a, pour la préparation de cela, il m'a fallu à peu près 20 minutes de travail sur le train parce que je ne maîtrise pas tellement bien ce genre de logiciel. Et j'ai essayé de faire pareil à un appareil photo, à reproduire la mise en forme de cette page-là, imprimée, avec OpenOffice. Je vous laisse juger si j'ai réussi ou non. Ça ressemble un peu. C'est pas parfait, mais ça ressemble. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce qu'avec cet encodage en OpenOffice, je peux faire tout ce qu'il y a? Est-ce que j'ai concrétisé? Est-ce que j'ai explicité les idées derrière? Est-ce que j'ai explicité les lectures qu'on peut apporter sur ce texte, ce document de Perec? Moi, je dirais non, parce que qu'est-ce qu'il y a derrière cela dans le logiciel OpenOffice? Bien sûr, il y a ça. Et là, c'est une balisage XML, comme les autres. Il y a des balises, mais le sens de ces balises ne contient rien sur le fait que, par exemple, il y a un paragraphe ou qu'il y a une note en bas de page. Ce qui est décrit là, ce sont des morceaux de texte. Chaque morceau de texte, chaque chaîne de caractère est associé avec ce qu'on appelle en OpenOffice un style. Un style, c'est quoi? C'est une manière d'afficher le contenu. Alors, ça ne dit que mettre cette partie-là en italique, mettre cette partie-là de cette manière en vous servant des capacités d'affichage. Alors, c'est un encodage, mais c'est un encodage purement visuel. J'espère que ça c'est évident pour vous. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Là, par contre, j'ai fait un encodage plutôt TEI. Quelle est la différence? Si vous regardez à droite, vous voyez que, par exemple, les paragraphes sont marqués, sont balisés avec une balise P, mais il n'y a aucune mention de la police, du style, du fait que quand on va afficher ce texte, il y aura un retour à la ligne, par exemple, ou la taille de la police, c'est pas marqué. Vous voyez qu'il y a un grand numéro 3 à gauche qui n'est pas là. Alors je me suis décidé que ça, bien qu'il soit très important, très évident dans l'affichage de ce texte, ce 3 n'a pas tellement d'importance, sauf pour indiquer que c'est la division du texte numérotée par pareil 3. Et ça, j'ai indiqué là avec une balise spécifique, div, et l'attribut n qui dit, bon, c'est le troisième n, c'est numéro, si vous voulez bien, c'est la troisième division du texte. Et c'est ça qui me semble beaucoup plus important que de mettre un 3 comme ça, comme chaîne de caractère, comme une paragraphe, comme tous les autres. J'espère que vous me suivez. Ok? Et pareillement dans la reste. Par exemple, les deux mots blanc et espace qui sont présentés en italique, je n'ai pas mis italique. Je n'ai pas précisé que ces mots-là sont rendus dans le texte imprimé en italique. Ce que j'ai fait dans mon encodage, c'est de me servir de ce balise high, H-I, c'est une abréviation du mot anglais highlighted, qui veut dire mise en évidence. Alors j'ai dit que ces mots-là sont mis en évidence, je n'ai pas précisé comment. J'aurais pu ajouter cela, bien sûr, mais je me suis décidé en faisant ce petit exemple de dire, ok, je ne suis pas tellement obsédé par la manière où Perec voulait mettre en évidence ces mots. Pour moi, il suffit qu'il voulait les mettre en évidence. C'est tout ce que j'ai dit. Par contre, pour l'annotation, là, je me suis servi d'une balise spécifique fournie par la théorie pour indiquer que là, il y a une annotation. C'est une note, bien sûr, note. Okay. Et il y a une attribut pour dire que cette note est affichée en bas de page. Bon. Je ne suis pas là pour vous faire comprendre tout ce qu'il y a de la théorie, mais simplement pour vous donner un goût de la différence entre cette manière d'encoder un texte et la manière qui consiste à dire on va reproduire simplement ce qu'on voit sur la page. Ici, on essaie de faire un peu plus. Alors, les enjeux de la théorie sont simples, très simples. C'est de faciliter la création, l'échange et l'intégration des données textuelles informatisées, toutes sortes de textes, toutes les langues, toute origine temporelle ou culturelle. Et je ne cesse pas de dire que je me suis servi de ce diapo pendant 30 ans. La pendant les 5 premiers ans où je me suis servi de ce diapo, toujours quand j'arrive à ce moment-là, il y a un peu de... dans la salle. Parce que c'était avant l'existence du World Wide Web. Et dans cette époque-là, c'était vraiment, disons, un défi quichotique de se dire qu'on pourrait mettre ensemble tout, qu'on pourrait représenter d'une seule manière tous les textes, toutes les langues, toutes les textes de n'importe quelle origine culturelle. Ben, on voit que vraiment, ça, maintenant, ça devient possible. Alors ça a changé. Mais il y a un autre aspect de la théorie qui n'a pas de tout changé, qui est toujours très important à comprendre. Et ça, c'est que la théorie s'adresse également aux débutants, aux gens qui ne sont pas certains de comment se débrouiller, et donc qui cherchent des solutions qui sont bien connues, qui sont déjà établies consensuellement dans le monde scientifique. Mais en même temps, la théorie doit s'adresser aux experts, aux scientifiques qui cherchent à créer de nouvelles solutions, donc de faire des choses qui n'ont pas été faites avant. Alors, ça apporte avec lui une tension entre le besoin d'être compréhensible, d'être bien établi, d'être consensuel, de l'un part, et de l'autre part, de faire des expériences, de faire des choses nouvelles. Et c'est pour cela, à mon avis, que la théorie est toujours vivante. Ça, je répète un peu, le but de la théorie, c'est de faire des recommandations, non pas des commandes, non pas des standards qui s'imposent, des recommandations, de préférer des solutions générales à celles qui sont spécifiques à une discipline, mais et en même temps de permettre une spécialisation pour des disciplines spécifiques et une extension vers des sujets, vers des besoins pas encore connus. Bon, là, j'entre dans des détails de l'histoire. Alors, ça, c'est pas tellement intéressant. L'important, c'est le URL. Parce que si vous allez là, vous avez le site de TI et tout est expliqué là, tout est disponible à partir de ce site. Je note simplement, bon, vous allez voir ça tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est que la théorie, effectivement, aujourd'hui? D'abord, c'est un ensemble de guidelines qui représente un consensus au sujet des distinctions significatives. Ça, c'est une jolie phrase française, distinction significative, ou en anglais, significant particularities, qui a été proposée par une petite groupe de francophones à la réunion, aux réunions initiales de la théorie. Ça veut dire, on va dire que tout le monde est d'accord que, par exemple, les paragraphes, les listes, disons les noms de personnes, peut-être, les noms de lieux, ces choses-là, ils ont une signification importante, qui importe quelque chose dans un texte. Donc, ça vaut la peine de les distinguer de la reste du contenu d'un livre, d'un document. C'est pour cela qu'ils sont des particularités significatives. Donc, l'objet de la théorie, c'est de donner des noms à ces distinctions. Ce consensus, cet ensemble des recommandations s'exprime en plusieurs manières, dans deux gros volumes imprimés et un ensemble de définitions formelles. Ces définitions formelles peuvent être exprimées en plusieurs langues schémas. Là, j'entre dans le domaine d'informatique. Au début, en une langue qui s'appelle le HTML, ensuite en XML, et maintenant on est en train d'imaginer une manière d'exprimer la théorie indépendamment de tous ces langues informatiques. Parce que derrière tout cela, il y a un modèle formel, un conceptual schema, ce qu'on dit en anglais, voire une ontologie. Alors la théorie s'applique à l'encodage de plusieurs choses. Les composants structuraux fonctionnels d'un texte, également à quelques transcriptions diplomatiques de sources historiques, des images, des annotations. Parce qu'elle est née dans le monde informatique, il y a bien sûr beaucoup de méthodes pour indiquer des liens, des correspondances, des alignements des parties du texte, parce que tout cela c'est un des atouts de la numérisation, c'est ce que ça permet des lectures pas du tout traditionnelles dans les textes. J'ai déjà fait mention du fait qu'avec la théorie, vous avez des manières d'indiquer des noms de personnes, des lieux, etc. Des annotations péritextuelles, des annotations métatextuelles, c'est-à-dire par exemple dans l'édition des sources manuscrites, vous allez voir des exemples tout à l'heure, des analyses linguistiques, des métadonnées de plusieurs types. Là, je suis conscient que je m'adresse à un public qui connaisse beaucoup mieux que moi le monde des métadonnées. Je dis simplement que c'est déjà prévu dans la théorie. On est vraiment gâté de choix entre tout cela. Il va de ça qu'il n'y a pas un seul TI DTD. Vous connaissez l'expression DTD, DTD. Bon, c'est une espèce de grammaire HTML qui dit voilà les balises dont il faut se servir. Mais il n'y a pas un seul TI DTD. Non. Parce que c'est un système modulaire. On s'en sert pour créer son propre DTD, selon ses propres besoins. Je passe cela. Voilà. Voilà la liste des modules de la théorie. Je l'ai mis en ordre alphabétique et j'ai mis en évidence les quatre modules qui sont le plus fréquemment utilisés, mais c'est sûr qu'on peut mélanger comme on veut. Donc, je prends un exemple à hasard. Vous avez, par exemple, si vous traitez les dictionnaires ne sont pas organisés comme les romans, normalement. vous trouverez dans les dictionnaires des balises qui sont spécifiques à ce genre de discours. Et ça, c'est défini dans un module dictionnaire. Également pour, par exemple, les pièces de théâtre, les scripts de films, les représentations de ce genre-là, ils ont des balises qui sont spécifiques à eux, etc. Puis il y a des choses, il y a un module, par exemple, l'encodage, des transcriptions de l'oral. Normalement, les gens ne parlent pas en paragraphe. Ils ne parlent pas non plus en entrée de dictionnaire. Ils parlent d'une autre manière, avec des autres objets structurants, un discours, par exemple, et on note dans un discours transcrit, comme ça, des choses qui n'existent pas dans l'écrit. Bon. Également, il y a des modules qui définissent des balises qu'on peut surajouter aux autres. Par exemple, que ce soit un dictionnaire, ou un roman, ou une pièce de théâtre, c'est bien possible qu'on traite le manuscrit et qu'on est en train d'essayer d'établir un schéma, un apparat critique sur l'évolution de ce roman, de ce dictionnaire, etc. Donc il y a un ensemble de balises pour indiquer les apparats critiques ou pour indiquer des aspects physiques de un ou plusieurs documents originels si on veut faire ce qu'on appelle dans ce domaine-là une édition génétique qui contient des informations sur la genèse d'un texte tel qu'il est témoigné dans les documents existants, etc. Donc je pourrais continuer toute la matinée sur tous ces modules. Je les mets en évidence simplement pour vous persuader que vraiment il y a qu'on est gâté de choix, comme je disais tout à l'heure. Il faut se méfier donc, parce que la TEI ne vous propose aucune solution toute faite, out of the box. Et on dit cela, bien sûr, il y a des solutions déjà faites et on peut en profiter. Mais il faut toujours se dire, ok, je ne suis pas comme tout le monde, je ne veux pas de cette balise, je veux cette autre balise. Et on peut faire cela d'une manière assez simple. Je n'ai pas le temps de vous présenter. Mais... Alors, je reviens sur ce point. Il y a tellement maintenant de pratiques d'usage de la théorie qu'il y a des dialectes, je peux dire des dialectes, si on parle de la théorie comme une langue, il y a des dialectes spécifiques qui sont, que l'on trouve dans le monde scientifique, ce qui est très bien. Et la dernière point là, c'est le plus important, la plus importante, parce que la théorie est basée 100% sur le XML. Donc, même si la théorie elle-même ne vous offre des outils, des éditeurs, des outils de faire un site web, etc., vous pouvez vous servir de n'importe quel autre système basé sur l'XML. Alors maintenant, je passe dans la deuxième partie de mon intervention. Je regarde le. Ok. Je dois terminer à 10 heures à peu près. Continuez. Quand vous devenez ennuyé, vous dites. Alors cette partie-ci, ça peut aller très vite, très très long. Ça dépend. Parce que j'ai mis ensemble un florilège de projets actuels basés sur la théorie, simplement pour vous donner une idée. J'ai fait un peu le bilan des usages typiques. Alors partout. Ce n'est pas pour limiter, ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous servir de la théorie pour faire d'autres choses. Je dis simplement que la plupart des gens qui s'en occupent, qui s'en servent, ils font des éditions de sources patrimoniales de toute espèce, des catalogues en ligne de notices bibliographiques très complexes, ou des ressources linguistiques. Et bien sûr, ces distinctions sont un peu floues. Et c'est justement l'intérêt de la théorie, c'est qu'elle permet de faire plusieurs choses en même temps, à partir d'une seule ressource. Alors, je commence avec un tout petit exemple que j'aime bien. C'est un projet typique de doctorant. Vous êtes un doctorant, vous avez besoin de faire une édition d'un roman très obscur du 18e, dont j'ai perdu déjà le nom, c'est un texte de M. François-Joseph Bérardier de Bateau. Donc, vous êtes doctorant, vous n'avez pas le temps de créer toute une infrastructure informatique, vous allez vous servir d'un logiciel, disons, marché. Alors, vous allez vous servir. Dans ce cas, le type, il s'est servi de Drupal. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un CMS très répandu dans le monde. Et qu'est-ce que vous allez faire avec Drupal? Vous allez afficher votre texte que vous avez saisi, bien sûr, en théorie, et vous allez mettre sur le site web. Vous allez dire, voilà, j'ai fait, donnez-moi mon doctorat, s'il vous plaît. Et bien, voilà. OK? Et voilà, le site. Ah oui, c'est l'essai sur le récit. Ben voilà, j'ai fait une saisie d'écran pour aller plus vite. On va choisir par exemple... Alors, l'essai sur le récit est très intéressant parce que c'est un des premiers textes où on décrit la structuration des textes. Alors, c'est un peu... OK. Et en effet, dans le septième partie, vous allez trouver ça. Alors, j'ai cliqué sur le lien, je suis allé directement dans le septième partie de ce discours.
et qui s'affiche comme cela.
Septième entretien, rendement de l'histoire, etc. Mais il y a des choses intéressantes. Ici, il y a la phrase avait fait graver au-dessus de la porte Tantum series junctoraque polet, qui est bien sûr en italique parce que c'est du latin, c'est pas du français. Et en plus, vous avez noté que ça, c'est bien du français moderne. En effet, c'était pas comme ça dans l'originel. Et donc, on voudrait afficher tous les deux. On veut faire... Bon, il y a deux choses qui sont très intéressantes à faire. Je pense que j'ai le sentiment d'aller trop lentement, mais c'est pour être clair. Que cet affichage doit permettre de visualiser le texte sous deux aspects différents. Un texte modernisé et l'originel, d'abord. Et en plus, ce texte peut être enrichi avec des traductions, des annotations pour l'explication des phrases en latin. Et en effet, c'est ça qu'il avait fait. Là, vous voyez, avec un clic, une autre version du même page qui est affichée. Et là, c'est affiché, là, c'est le texte moderne. Oui. Avant, c'était en 18e. D'accord? Alors, l'autographe a changé. Mais en plus, vous avez là un petit pop-up qui contient une explication de cette citation latine. Alors, vous avez vu de telles choses partout, hein? Rien de spécial.
Oui.
Ok. Alors, c'est ornement. Ornement, par exemple. Oui. Ok. Alors, derrière ça, bien sûr, il y a un encodage. Et c'est l'encodage qui rend tout cela possible. Là, c'est illisible. Alors, je focalise un peu. La justice de cette inscription que vous avez fait graver au-delà, et vous voyez encore ce fameux balise high, pour indiquer une partie mise en évidence, en italique. Mais là, vous voyez le mot tantum, avec un accent, qui est ce qu'on voit dans l'originel, et tantum sans accent. Pourquoi on a mis tous les deux? Parce que on voulait bien afficher ou bien l'un ou bien l'autre. C'est pour cela que ces deux balises, le Oric et le Reg, Oric, évidemment, c'est originel, Reg, bien sûr, c'est régularisé. Okay. Ce sont deux manières qu'on peut choisir d'encoder ce même mot. Parce que c'est un choix entre ou bien l'un ou bien l'autre, ces deux balises, ils sont entourés d'une troisième, le choice, qui dit choix. Ça veut dire que le logiciel qui va afficher ce texte, au moment où il trouve un choice, doit se décider ou bien j'affiche l'originel, ou bien j'affiche la forme régularisée. Ok ? Ça, c'est un des avantages de ce type d'encodage de texte. En bas, vous voyez le note, l'annotation qui a été fournie. La citation provient de l'Ars Poetica d'Horace, etc. C'est clair? Et c'est simplement pour vous donner un exemple concret des avantages de ce type de d'encodage qui permet un affichage à plusieurs niveaux, comme ça. Alors maintenant, ça c'était un projet de recherche, un projet de doctorant. Maintenant, je vais à l'autre extrême. Très rapidement, je vous cite le cas de Deutsche Textarchiv. Ça, c'est une archive allemande, de textes de la littérature allemande, bien sûr. C'est un grand projet patrimonial. Il mit ensemble je ne sais combien de milliers de textes, de tout comme cela, qui sont bien sûr numérisés en mots d'image, mais en même temps avec un affichage textuel. Soit en HTML, soit en TI-XML. Et vous pouvez bien sûr aller sur le site, télécharger des fichiers XML. Je pense, oui, j'ai un saisi d'écran. Vous avez la possibilité de chercher, de rechercher un seul mot ou une phrase dans tout l'ensemble de la collection, du fond. Donc j'ai cherché ici le mot Paris, ou Paris. Je l'ai trouvé dans plusieurs textes. Alors j'ai choisi un de ces textes pour voir où il est présenté. Est-ce que vous arrivez à lire ça? C'est un peu petit. Là, vous avez la page image. Là, vous avez un essai de présentation en HTML pour rendre plus lisible cela. Et là, que vous ne voyez pas de tout, vous avez la présentation en TIA. Ah non, vous avez la possibilité de télécharger. Oui, voilà la version TIA. OK? Et là, vous voyez que c'est un des problèmes classiques de ce genre de logiciel qui se trouve partout dans les grandes collections. Vous avez un énorme fond de texte, vous faites numériser en théorie, vous donnez la possibilité de rechercher des fragments de texte, de repérer donc des parties de texte, non pas des textes complets. Alors, la question qui s'impose, c'est comment structurer ces parties ? Dans ce cas-là, ils se sont décidés de traiter chaque résultat comme un texte intégral. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a un ensemble de balises au début des extraits qui est un peu... Moi, je trouve ça un peu curieux. J'ai pas de meilleure solution, mais ça me semble pas idéal. Alors, je continue avec un autre exemple. Ici, c'est canadien. À l'université de Victoria, ils ont fait un ensemble de. Ils ont rassemblé d'abord un fonds de documents au sujet du mariage, la parole polémique relative au mariage du XVIIe siècle en France. Alors, ce fonds rassemble des fictions, des gravures, des traités médicaux, beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant dans ce fonds, c'est la manière d'indexer tout le contenu. Donc, je passe par cela pour le moment. Alors, vous allez trouver dans ce site un index des termes médicaux. Je choisis à hasard le terme « huile de grenouille ». Je ne sais pas si vous connaissez déjà l'huile de grenouille. C'est un décoction préparé en cuisant des grenouilles, bien sûr. Qui sert à faire je ne sais quoi. Elle adoucit, elle tempère les inflammations. Très bien.
C'est bien pour le sommeil aussi.
Ah oui. Alors, ça c'est un index classique. Sauf que, il y a des liens ici sur les mentions de ce terme dans le fond archival, qui sont accessibles avec un simple clic. Si je ne me trompe pas, oui, voilà le texte intégral d'un texte, un de ces textes, pardon. Prenez huile de grenouille, huile de fleur de ciboule canine, huile de fourmi, huile de blablabla, et ça, tout pour faire un médicament. Alors, la phrase huile de grenouille, et souligné, si je clique dessus, j'aurai cette notice à droite qui explique qu'est-ce que c'est, comment c'est fait. C'est parce que dans l'encodage, vous avez ici le texte que je viens de lire. Prenez l'huile de grenouille, huile de fleur de ciboule canine, etc. Mais la partie, la phrase huile de grenouille, il est entouré d'une balise ref. Okay. La balise ref veut dire, évidemment, référence. Okay. Alors, on dit dans le texte même, ça c'est une référence vers quelque chose. Vers quoi? Vers l'objet auquel on donne ce code, huile de grenouille, avec un majuscule DG. Et là, je trouve ailleurs dans mon document, il y a la définition de cette note, ou plutôt la définition de cet objet, l'huile de grenouille. Les scientifiques qui gèrent ce projet ont donc dû créer un ensemble de définitions de tous ces objets qui est dans un autre document, c'est comme un dictionnaire. Et on peut pointer sur ce dictionnaire à partir du texte. Ok ? Je vais un peu plus rapidement. Ça c'est très intéressant, c'est une chaîne éditoriale basée sur l'XML théorie, mais pour le décrire, il me faut trop de temps. Il y a beaucoup d'autres projets qui s'occupent des fonds archivistiques. J'ai cité quelques exemples. Le correspondance de Van Gogh, le journal intime de Robert Graves, l'archive de Isaac Newton. Là, j'ai fait une saisie d'écran qui ressemble. Ça, c'est très bien fait, ce site. Si cela vous intéresse, je vous conseille d'aller le voir. Très bien fait. Vous avez l'affichage des manuscrits originels. Vous avez une transcription mise en parallèle entre les deux. Et tout cela est géré derrière par des affiches TEI qui sont également disponibles. Mais c'est très difficile à voir ça. Donc, ok. J'ai fait mention des possibilités de faire des catalogues en ligne pour des notices bibliographiques. Et ça, c'est un grand. Il y a une partie de la TEI qui vous propose une manière d'écrire des notices bibliographiques très, très, très détaillé. C'était conçu pour la description des fonds manuscrits à un niveau beaucoup plus riche que le EAD, par exemple, qui a donc été adopté par plusieurs collections de manuscrits médiévales occidentales très importantes. Donc, je cite trois là, en Suisse, en Islande et en Tchécoslovaquie. Mais aussi, il y a un catalogue intéressant sur des fonds en langue arabe. Et ça, j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser. Donc, j'ai fait une saisie d'écran. C'est le site Firis. Vous voyez que tout de suite, il y a un problème d'affichage en arabe et en translittération en même temps. Et si vous entrez bien dans l'encodage, un aspect intéressant des bibliographes arabes, c'est que chaque auteur a plusieurs noms. On peut décrire la même personne en plusieurs manières, avec plusieurs types de descriptions. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour gérer cela? Vous avez une balise author, et normalement, ce balise auteur, ça contient le nom de l'auteur, évidemment. Dans un catalogue occidental, il n'y a pas de problème. Il y a une version d'indiquer. Je suis allé trop vite. Ici, on s'est dit, ok, on fait ça, mais à l'intérieur d'Author, d'abord, on dit que chacun de ces auteurs est décrit dans ce qu'on appelle en anglais. Comment ça s'appelle en anglais? Il y a une phrase très spécifique française que je cherche. Voilà. Ça, ce qu'elle dit. Le truc d'autorité. Authority file, oui. Et ça existe, le VIAF. Moi, je ne connais pas le VIAF. Vous connaissez peut-être? Non? Alors, c'est un truc anglais, évidemment. Mais là, vous avez les noms normalisés de tous les auteurs. Donc, on veut pointer sur ce catalogue. Hein. On n'a pas le temps de dire, ok, c'est ce monsieur Dupont et non pas cet autre monsieur Dupont dont il s'agit. Okay? Et ça, c'est très utile. C'est une manière de normaliser. Alors, on peut pointer sur l'entrée là. Mais en même temps, on veut recorder, on veut enregistrer ce qu'on voit dans le document qu'on est en train de numériser, donc le catalogue existant, où il est écrit Karmi Marie Ibn Youssouf, blablabla. Et également en langue arabe. Donc on met, c'est juste comme le choice que vous avez déjà vu, on met plusieurs manières d'afficher le même nom. Ok. Je termine avec des applications linguistiques. Je disais tout au début que la théorie s'applique à dans plusieurs domaines et il y a beaucoup d'applications linguistiques. J'ai l'exemple très connu en France. Il y a une équipe qui font beaucoup de choses très intéressantes avec l'étude de la langue française à Nancy. Eux, ils ont un énorme corpus de toutes les éditions d'un journal très connu cette partie de la France, l'Est républicain. Alors, ils numérisent, ils ont un accord avec la maison d'édition du journal, bien sûr. Alors, ils prennent toutes les semaines, toutes les mois, je ne sais quand, tous les exemplaires du journal et ils prennent en format numérisé, ils simplifient et ils ont fait un grand corpus en théorie qui permet vraiment de faire des études sur la langue journalière d'aujourd'hui et de voir son évolution. Alors la langue des journaux, ça c'est une chose très intéressante. Je ne donne pas un cours en corpus linguistics malheureusement, mais je peux. Si vous réfléchissez, vous saurez que la langue française telle qu'elle apparaît dans les journaux, ce n'est pas tout à fait comme la langue française qui est enseignée, disons, aux écoles. Et en effet, une des différences significatives, c'est que ça change très très rapidement. Pas aussi rapidement que la langue des jeunes, par contre, mais pour la langue écrite, l'examination, disons, de ces versions dans les journaux, c'est très significatif pour voir l'évolution de la langue. Pour investiguer, par exemple, les néologismes, etc. Ok. Je termine avec cet exemple-là, parce que c'est vraiment dans votre domaine. Il y a un site que j'aurais dû ajouter ça. Il y a un site géré par ce même monastère où on a commencé, qui met à disposition toutes les versions numérisées de le Tripitaka. Le grand corpus des textes bouddhistes en toutes les langues. Alors vous avez la possibilité, et là j'ai choisi à hasard un de ces textes, de mettre en parallèle la version chinoise traduite en anglais et un est japonais et l'autre est chinois, si je ne me trompe pas. Ok. Et vous pouvez bien sûr et télécharger en forme TI également. Ok, je termine avec ce diapo parce que j'ai beaucoup insisté sur les possibilités de modularité, de mettre ensemble une mélange des possibilités de balisage avec la théorie. Et si on a tout cela, qu'est-ce que ça veut dire finalement être conforme à la théorie? Il y a une réponse formelle qui est fourni dans les guidelines. Je dis rien de cela, mais je dis plutôt que conformité à la théorie, ça veut dire pratiquer le balisage quasiment consensuel. Ça veut dire qu'on se met d'accord sur le fait qu'on nomme ce phénomène de cette manière-là. On ne dit pas que c'est la vérité, on ne dit pas que c'est une définition pour tout le temps, mais on se met d'accord à appeler la même chose de la même manière. Donc on crée un lexique commun dans un domaine, en respectant l'autonomie des domaines. Alors pour les lexicologues, par exemple, il y a un domaine, Ce n'est pas pour moi, en tant que non-lexicologue, de leur dire, mais vous êtes stupide de vous servir de ce terme de cette manière. Ce terme pourrait être simplifié. Pour eux, dans leur domaine, ce n'est pas le cas. Donc, il faut respecter cela. Et en effet, pour moi, la standardisation style théorie, ce n'est pas une question de donner des ordres, ce n'est pas question de « fais comme moi », mais plutôt « explique-moi ce que tu fais ». La théorie nous fournit avec un ensemble de définitions. Quand je reçois un texte encodé en théorie, pour savoir quelle est la signification voulue de telle ou telle phrase, de tel ou tel balisage, il suffit de regarder dans la théorie, si c'est bien fait, bien sûr. Et donc, ça permet un des objectifs classiques de la numérisation, qui serait l'intégration des textes numérisés avec plusieurs objectifs. Je termine là parce que je voudrais bien écouter vos idées à ce sujet. Merci de votre attention.